Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu. Alors, est-ce que tout le monde est là dans cette réunion ? Alexandre ?
Oui.
Judith ?
Hier. Yeah.
Antoine ?
Oui.
Déborah ?
Présente.
Mathieu ?
Je suis là.
Ok, très bien. Et Geoffrey, je suis là. Allez, on y va. C'est l'une des dernières réunions de 2023, une des premières de 2024. Je ne sais plus trop tellement 2023 nous a roulé dessus. Quand je pense qu'on a commencé l'année avec Vaincre ou Mourir et Astérix et qu'on l'a fini avec Les Trois Mousquetaires et The Marvels, franchement, est-ce que c'est pas beau ? Est-ce qu'on n'est pas fiers d'avoir survécu à cette année fantastique, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pire que d'habitude 2023 ou normal ? Antoine, tu rigoles, qu'est-ce que tu penses de ça ?
Bah, disons que comme tu le dis, avec un certain film qu'on ne citera plus d'ailleurs à force, on a quand même commencé l'année très fort avec en même temps une fierté parce qu'il y a eu une dimension politique dont on est assez fier, notamment avec Vaincre ou Mourir et sur un autre film qu'on remettra. On précise peut-être dès maintenant que du coup, pour éviter de recréer de la merde, on n'a pas mis Vaincre ou Mourir dans cette réu pour éviter de ressasser la merde. Mais je pense quand même que l'année a été assez compliquée sur certains points et notamment, on en reparle. Et on en a déjà parlé sur le box-office de cet été aux États-Unis. On a bien vu que les blockbusters perdaient quand même en vitesse et à raison dans certains cas, parce qu'il y a pas mal de films qui étaient quand même bien, bien pourris.
Judith, qu'est-ce que tu as pensé de l'année ?
Ouais, alors c'est peut-être comment dire, la proximité des événements qui donne effectivement l'impression que ça a pu être pire. En même temps, on a quand même fait une réu pour parler du fait qu'il y avait eu aussi plein de belles choses cette année, donc je sais pas si c'est vraiment pire, mais en tout cas ça démérite pas, on va dire, des autres années. C'est vrai qu'on a l'impression, mais comme le disait un peu Antoine, c'est vrai que au niveau des Marvel, au niveau Disney, on a l'impression que ça a jamais été aussi pire, quoi. Enfin, il y a quand même plein.
Ça c'est pour célébrer ton arrivée chez écran large. T'as quand même commencé notamment avec Ant-Man 3. Donc,
voilà, première projection. Ouais, voilà. Où jusque là on me disait un peu, oh t'as envie d'aller voir tel truc, d'accord, écris la critique de tel ou tel film. Et là on dit non, Ant-Man 3 tu vas le voir. Et c'était compliqué. Mais ouais, je sais pas si c'est tellement pire, mais c'est pas spécialement joyeux. Ouais.
Alexandre ?
Moi, je trouve que l'année était vraiment naze au niveau des blockbusters d'action, de spectacle. J'ai absolument pris aucun pied devant aucun des films de gros budget comme ça. Alors, j'ai pas vu les productions indiennes, mais de toute façon, je pense que j'aurais pas aimé. Mais
jurisprudence RRR.
Voilà, jurisprudence RRR. Non, c'est pas que j'avais pas aimé RRR, mais bon.
Je te pardonne toujours.
Non, mais
pas.
Voilà. Et si à la limite, Mission Impossible 7, j'ai un peu aimé certaines séquences, mais par rapport à Fallout, qui était quand même 10 fois mieux, même Rogue Nation ou Protocole Phantom. Donc j'ai vraiment pris aucun pied sur les blockbusters cette année, donc assez faible au niveau du spectacle hollywoodien, disons.
Toi, Mathieu ?
Ouais, j'aimerais dire que c'est comme d'habitude, mais faut avouer qu'en termes de blockbuster, j'ai l'impression qu'on a un peu atteint une sorte de point de non-retour, parce que c'est des films qui non seulement sont vraiment devenus hyper pourris, mais qui en plus ne fonctionnent même plus vraiment, avec notamment, je trouve, un Bossaball, qui est un film dont on parlera plus tard. Voilà, et sinon, au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus, alors peut-être un filtre déformant, difficile d'être un peu méchant, enfin de parler en mal de certains films. Les communautés sont de plus en plus virulentes, alors outre évidemment un certain raid de de début d'année. Parfois, on est vraiment étouffé sous la haine à notre égard.
Alors que nous,
on ne fait qu'à aimer, qu'à ne pas aimer certains films. Bah, The Flash, pour avoir modéré les commentaires à l'époque, putain, on s'est fait insulter de tous les noms et toutes nos familles respectives. Hein, c'est, alors que bon, nous, on n'a pas du tout aimé le film, mais je veux dire...
on est les seuls au monde, en
oui,
plus.
Oui, voilà, c'est-à-dire, tout le monde a trouvé ça génial, bien sûr. Voilà.
Et toi, Déborah, en parlant de films de super-héros de merde, comment t'as vécu cette année?
Bah, étant donné que je me les suis tous tapés un peu mal... non bah clairement bon c'est pas comme si enfin non c'est faux parce que je me raccroche toujours au Gardien de la Galaxie 3 mine de rien, on en a pas parlé dans les bons films mais c'était
oui,
je pense
4 sur 5 quand même hein.
Oui bon je me suis peut-être un peu emballée ok
c'était bien
mais bon il
fallait compenser le reste
bah voilà comme les 3,5 de Mario que j'ai mis tu vois genre avec le recul
ok ça commence déjà à pas
je
assumer.
Regrette un peu mais oui non bah clairement pour Marvel et Disney en règle générale c'était une bonne grosse année de merde et même pour d'autres films que j'étais vraiment encline à aimer et sur lesquels j'ai pas mal de complaisance en règle générale que j'ai détesté mais on en parlera tout à l'heure.
Très bien. Bon, en plus on n'a pas vraiment fini 2023 puisqu'il reste encore Aquaman 2 et Rebel Moon sur Netflix de Zack Snyder donc peut-être qu'il y a des bonnes ou mauvaises surprises. Oui Alexandre
ouais, on ne doute pas que Zack Snyder nous a encore fait un chef-d'œuvre évidemment. Donc j'imagine, je retire en effet tout ce que j'ai dit
en
sur
les
blogs. En
parlant d'insultes qu'on appelle à recevoir
direct, il attire le feu. Il n'a même pas commencé.
Le film s'appelle L'Enfant du Feu, c'est moi en fait. Voilà.
Bon, en tout cas, vous le savez, on rate pas une occasion de juger très fort. Je sais qu'on adore juger les films, les gens et tout le monde. C'est un peu un des trucs qui nous réunit chez Écran Large. Donc, pour cette réunion spéciale, on va évidemment faire les pires films de 2023. Alors, j'ai discrètement récolté vos avis via le tableau Excel de Alexandre. Pour faire le flop 10 de toute l'équipe Écran Large de 2023, j'espère que vous êtes prêts pour être méchants, cruels avec vos pires jeux de mots, vos pires accents du Sud, parce qu'on nous a dit qu'il y avait un accent du Sud dans chaque podcast. Donc, je tiens à ce qu'il y en ait dans celui-là, s'il vous plaît.
Voilà, ça va être l'évidence, si tu veux.
Alors on commence en 10ème place par un des plus mauvais films de super-héros de l'année. Je sais que ça laisse beaucoup d'options, mais je vous donne un indice, c'est celui avec la meilleure pub pour les Skittles. Déborah.
Shazam 2. mon dieu, ce film, déjà on n'a pas eu on n'a pas eu de projection presse, on l'a rattrapé sur notre temps libre, mais mon dieu, quelle infamie. Parce que je sais que ça fait pas l'unanimité autour de cette table, mais je défends le premier Shazam. Je trouve qu'il y a vraiment plein de bonnes choses dedans, et surtout il y a quelque chose qui a tendance à se perdre avec les blockbusters, c'est le cœur. Et je le dis vraiment, premier degré.
Dis-le avec l'accent du Sud, s'il te plaît.
Avec le cœur, avec les sentiments, voilà. Et Shazam 2, en fait, un peu comme Thor 4, c'est une blague de, je sais pas, une heure, enfin, ressenti 4 heures. Mais,
j'ai l'impression que ça fait 2 heures au moins, ce truc, non ?
Oui, c'est beaucoup trop long pour ce que ça a raconté.
Voilà. Où il n'y a strictement plus rien. Avant, dans le premier, on était quand même sur l'histoire de Billy Batson, donc sur cet orphelin, ça passait par son alter ego de super-héros et tout ça. C'était quand même une formule assez simple, mais qui fonctionnait, je trouve. Et là, dans ce deuxième, mais c'est la ramasse au complet. Enfin, t'as Zachary Levy qui fait le mariole dans son costume alors qu'il est quadragénaire et que, honnêtement, j'en peux plus de te voir faire le mariole en jouant un adolescent qui, en 2 ans, a régressé pour avoir un QI à 0. Je sais même pas par où vraiment commencer sur pourquoi ce film ne fonctionne pas. Probablement parce que c'est déjà un sommet de ringardise et on trouvait déjà que c'était le cas avec Black Adam et sur Shazam 2, je ne comprends pas comment on peut en être à répéter les mêmes tropes et les mêmes motifs continuellement alors qu'ils ont été vidés, ils n'ont strictement plus rien à offrir. Il y a un sauvetage sur un pont au bout de 10 minutes de film, une des grandes séquences d'action c'est Shazam qui se bouffe un immeuble, enfin non, je ne cautionne pas, c'est cette paresse, le fait que tout soit au second degré, que les personnages n'aient plus le droit de ressentir. Donc voilà, on a l'impression que les émotions, les sentiments, c'est quelque chose qui est obligé d'être parasité au bout de 10 secondes, d'être désamorcé, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop sérieux, parce qu'il faut rester dans le côté bon enfant et tout ça. Et juste, bah, le film n'a rien compris, parce qu'au final, j'ai juste l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule pendant ressenti 4 heures, et qu'en plus, il y a une pub de Skittles au milieu. Enfin vraiment, non, je déteste ce film.
Mention spéciale à ce coming out qui avait matière à être vraiment joli dans cette famille... adoptive où ils sont plein de frères et sœurs avec leurs parents adoptifs et ils sont tous voilà des Shazam et compagnie et où le mec du coup s'est construit autour du film très succinctement avant qu'ils disent en fait je suis gay et tout le monde fait bah ouais bro c'est cool genre comme si c'était une blague et tu fais Ah non, mais là, vous êtes complètement passé à côté de ce que vous deviez faire.
Ouais, j'avais
dans ce
zappé aussi.
Ah, ouais. si. Moi, c'est un des trucs dont je me souviens parce que tu te dis, c'est tellement le sujet de Shazam qui était là dans le premier en plus, et qui là est tellement plus assumé dans le deux, qui effectivement, comme tu le dis, moi, de toute façon, au bout de 2 minutes de film, tu vois Hélène Mirren, la pauvre, grande Hélène Mirren, qui débarque avec son vieux costume de déesse grecque.
dans le musée, là.
Dans le musée ouais. Où tu te dis, mais vraiment, le truc que t'as vu 10 000 fois de méchant qui récupère le MacGuffin du film dans l'intro pour setup le reste, et tu te dis, mais c'est ça, en fait, t'as tellement vu ça 1000 fois dans le contexte en plus d'un DCU qui était déjà plus ou moins en mort cérébrale, et on te disait en gros ça sert un peu à rien de voir Shazam 2 parce que de toute façon le film il est pas connecté au reste, et le film l'assume plus ou moins, donc c'est terrible à voir. Et moi j'ai une grande tristesse parce que comme toi, c'est pas que j'aime Shazam 1, mais je trouve le film pas déplaisant, et moi j'aimais bien son réal en fait. J'ai une grande sympathie pour David F. Sandberg parce que voilà, c'est un mec qui vient de YouTube, il a fait des petits courts-métrages, il a vraiment gravi les échelons, et il a beaucoup d'honnêteté, y compris maintenant sur sa chaîne YouTube, à parler de l'expérience que c'est de faire des films à Hollywood et de faire des concessions, voilà comment tu t'adaptes, et il a toujours ce côté un peu do it yourself. Et là de se retrouver avec une machine à 120 millions qui a rien à raconter, qui a aucune image marquante, c'est assez terrible de voir le naufrage.
Tu balances le mot concession et je trouve ça incroyable. C'est vraiment parce que dans l'histoire classique de Shazam, après avoir eu son film d'introduction, après avoir eu son grand ennemi Black Adam qui a eu son film d'introduction, là normalement c'était la rencontre entre les deux, l'ego de Dwayne Johnson s'en est mêlé parce que lui, non, son Black Adam, il devait affronter Superman et pas juste petit Shazam dont tout le monde s'en fiche gentiment, ce qui fait qu'on se retrouve avec ce trio de méchantes mais dont on en a mais rien à péter. Enfin, personnellement, vraiment, je m'en fous. Et ça me fait quand même mal, parce que toi, tu parles de Hélène Mirren. Bon, il y a Lucy Liu aussi qui est perché sur son dragon, qui est perdu.
Oui, la pauvre, s'il vous plaît, parlons de Lucy Liu, quoi.
Mais moi, c'est Rachel Zegler qui me fait le plus de peine, parce que Rachel Zegler, je l'ai vue dans West Side Story, je me suis dit, cette meuf, elle a une carrière, mais toute tracée. Oh, LOL. Putain. Toute tracée, mais dans le mur.
Cette actrice qui est donc Shazam 2 dans le No Hunger Games, et le prochain, c'est Blanche-Neige de Disney. Donc, je pense que il y a un motif qui se dessine.
Il était bien Hunger Games, donc.
Oui, mais c'est quand même la meuf, elle passe dans les blockbusters qui sont pas les trucs les plus inventifs du monde.
Ça, c'est sûr.
J'ai l'impression que maintenant, les acteurs qui veulent devenir connus, quand ils passent par le blockbuster, c'est plus du tout une. C'est pas obligatoire qu'ils deviennent des stars après ça, quoi. Je veux dire, là, tu peux vraiment te péter la gueule, et Rachel Zegler, elle partait très bien, et c'est pas certain que son passage chez Disney et DC qu'il fasse vraiment décoller. Hein.
Et j'aimerais quand même revenir sur le côté très ringard du film, comme je disais. Le fait que le film fasse pitié parce qu'il essaie absolument d'être un petit objet pop très complice avec le public, et ça passe par je trouve la pire façon de s'y prendre, c'est enchaîner les références à Fast and Furious, à Game of Thrones, au Seigneur des Anneaux, tout ça, et c'est un bombardement, et je trouve ça tellement ringard. J'avais le même problème avec les Tortues Ninja, là, le dernier qui est sorti, qui essayait tellement désespérément de faire Jones que du coup il cite l'attaque des Titans et tout ça, alors que enfin non, c'est juste une liste, c'est des coches que tu casse comme ça, mais pour ne rien raconter, qui crée zéro complicité avec ton public.
Arrête de dire n'importe quoi.
Des coches que tu cases, mais c'est pas mal.
Alors, moi, j'aime pas du tout le premier Shazam. Je trouve que c'est vraiment un des pires trucs de cet univers. J'ai pas aimé Shazam 2, mais je suis étonné parce que moi, je trouve que Blue Beetle, dans la série Grosse Merde de DC, c'est vraiment pire. Moi, Blue Beetle, j'ai trouvé ça interminablement chiant. Et Shazam 2, j'ai trouvé ça inconséquemment chiant. Pour la nuance que vous pouvez trouver. Ouais,
je mets peut-être ça parce qu'avec Déborah, les deux, on a dû les rattraper. Et Shazam, on a dû le rattraper en soirée, en avant-première, le mardi soir. Alors, Blue Beetle, il n'y avait tellement pas d'avant-première qu'on a dû le rattraper le mercredi matin. Moi, j'étais shooté au café pour être sûr de tenir. Moi, ça a peut-être fait dans le sens où Blue Beetle était un peu plus supportable parce qu'il se passe un temps soit un peu plus de trucs. Et peut-être parce que j'étais dans l'état aussi où je me disais, c'est un peu moins chiant. Mais en fait, moi, c'est surtout Shazam, comme c'est ça, je déteste pas le premier. Et que j'ai une sympathie pour l'artisan derrière, je trouve que la dégringolade est terrible. Et je trouve vraiment que c'est un des films tellement les plus, non seulement bêtes, mais inconséquents de cet univers. Là où même Blue Beetle, derrière l'Origin Story, t'as vu ça 1000 fois, mais au moins il y a 2-3 plans, 2-3 moments où je me dis, il se passe un truc, tu vois, c'est tellement inconsistant. Mais là, dans Shazam 2, je trouve vraiment que c'est un film du néant, en fait. Plus encore qu'un autre film dont on parlera après, qui lui est tellement dans l'hallucination que c'est encore autre chose. Mais là, je trouve vraiment que pour moi, Shazam 2, c'est le blockbuster du néant. Il se passe tellement rien, t'as tellement vu tout 1000 fois, que je m'emmerde dès les 5 premières minutes.
Et comment tu as décrit Zachary Levi dans ta critique déjà ?
Comme un teckel shooté au sucre. Voilà. Son énergie de teckel shooté au sucre, et c'est une de mes punchlines dont je suis le plus fier. Je trouve ça. Vraiment, en plus, tu vois, j'avais mis la photo de lui là qui fait c'est justement la ref à Fast and Furious à ce moment-là, en tapant du poing, en attendant que les autres débarquent, il débarque pas, avec son gros sourire de grognet. Et je trouve qu'en mettant la photo juste en dessous de cette phrase, dans la critique écrite, ça définit vraiment bien l'esprit du film. Je trouve que t'as tout dans, dans ses yeux, la pétillant, comme s'il était shooté à la coke en permanence. Ça révèle bien l'énergie assez horrible du film, qui en plus, comme tu le dis, en fait, c'est ça, le personnage d'adolescent de Billy Batson a un peu évolué très vaguement, il est un peu plus mature et en fait il est plus mature que Shazam. C'est ça qui est terrible, et c'était déjà un peu le cas dans le premier, mais dans le 2 c'est flagrant. En fait, Billy Batson, il a un peu des responsabilités, il prend un peu les choses au sérieux, machin et tout, et dès qu'il est en Shazam, t'as Zachary Levi qui est tellement pas sur la même page, où c'est genre je dis de la merde et je fais des conneries en gueulant comme un ado qui a bouffé trop de bonbons, et c'est insupportable.
Ok, quelqu'un a un autre clou dans le cercueil de Shazam en français ou c'est bon là?
Shazam!
D'accord, bah justement Alexandre, pour la peine, tu vas parler du film de merde suivant, qui est l'exploit 65, La Terre d'Avant, qui a réussi à être chiant alors qu'il y a des dinosaures. Bon, Adam Driver aussi, mais quand même, comment on a raté un film avec des dinosaures?
C'est vrai, alors moi je pense que je suis celui qui aime les moins les dinosaures ici, parce que vous êtes tous des fans de dinosaures ici. Voilà. Et pourtant j'ai trouvé ce film à chier. Voilà. Donc, pour rappel, c'est un gars qui est joué par Adam Driver.
Sa mère, elle meurt.
Ah, mais c'est quoi? C'est un pilote.
T'es pitcher professionnel, je crois.
Il me semble. Du coup, en fait, c'est un pilote qui vient d'une planète. Peu importe, on s'en fout de toute façon, on la verra jamais. Il vient d'une planète qui est en train de naviguer pour amener des gens d'une planète à une autre, et il se crache sur une planète où l'IA. Des dinosaures, voilà. Sauf qu'en fait, c'est le seul à savoir qu'il y a des dinosaures sur tes planètes, puisqu'on ne les verra jamais. Voilà. c'est le pitch est trop bien. C'est-à-dire un mec qui se crache sur une planète qui s'avérera être la Terre il y a 65 millions d'années, d'où le titre 65, la Terre d'avant.
Ça, c'est pas mal quand même.
Mais, voilà. Et, sauf qu'en fait, on ne verra quasiment aucun dinosaure. Vite fait, à un moment donné, ils joueront à cache-cache avec eux dans la forêt. Il y a un T-Rex qui débarquera d'une grotte et il y en a un autre qui sortira de la cascade.
Attends,
ou je sais pas quoi.
Dinosaure ou T-Rex, faut vraiment le dire vite parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait réellement des dinosaures et des T-Rex.
C'est ce que je dis, c'est une sorte de T-Rex.
Ouais.
moi je n'y connais rien.
La police des dinosaures arrive. Attention, Mathieu n'a pas encore parlé. Hein.
Non, mais j'y connais rien en espèce de dinosaure, mais dans tous les cas, peu importe l'espèce en question, on se fait vraiment chier. D'autant plus que c'est dommage parce que non seulement le pitch était plutôt cool, donc quelqu'un qui se crache sur une planète où il y a des dinosaures et il va devoir survivre en même temps. Du coup, il découvre qu'en fait, il y a une petite fille qui est là et sa petite fille lui rappelle son enfant qu'il a perdu quand il était plus quelques années. Du coup, il est un peu triste et en même temps, ça lui fait revivre des souvenirs. Enfin, l'histoire nulle à chier quoi. Mais. C'était pas mal pourtant, il y avait Scott Beck et Brian Woods à la réalisation et au scénario aussi, qui sont derrière l'idée du scénario de Sans un bruit, qui n'était pas non plus le film d'horreur le plus révolutionnaire de ces dernières années, mais qui avait un concept amusant. Voilà, moi j'aime bien le 1, je trouve le 2 sympatoche aussi, voilà. Donc on pouvait espérer quelque chose.
Bah, disons qu'il était bien réalisé quoi.
Bah,
c'est ça.
Ouais, John Krasinski, il avait fait un bon taf. Mais bon, après, on n'était pas à une approximation près de leur côté, de toute façon. Donc que 65 se passe sur une planète avec dinosaures sans dinosaures est finalement assez obvious chez eux.
Mais après, la grosse différence, c'est que peu importe ce qu'on pense de Sans un bruit, de ses qualités ou de ses défauts, c'était un minimum rythmé et un petit peu stimulant. Bah, alors que en 65, quand même, encéphalogramme plat, quoi.
Ouais, c'est ça, ils sont censés avancer dans la survie, mais il se passe rien, ils discutent plus entre eux qu'ils n'affrontent des éléments, et c'est ça qui est un peu dommage.
Bah, y a absolument pas, donc pour revenir un instant sur ce qu'on disait, en termes de représentation des dinosaures, il y a zéro satisfaction.
Et la représentation, ça compte.
Non, okay. Mais ils essaient de nous parler de dinosaures. Je veux dire, si ça avait été une planète qui n'était pas la Terre, parce qu'en plus, complètement débile, que le titre du film lui-même spoil complètement le twist, qui en plus, au sein de la narration, est travaillé comme un twist. Alors vraiment, pourquoi ce titre? Ça n'a aucun sens, mais bref. Parce que du coup, comme t'es sur la Terre et que c'est donc censé être un peu les dinosaures qu'on connaît, entre guillemets, pourquoi faire des trucs qui ressemblent à moitié à des dragons, enfin, qui n'ont rien à voir, aucune exactitude anatomique, c'est un peu dommage.
Tu étais là.
Oui. Tu n'en sais rien.
C'est oh, excusez-moi.
Ah, les habitants de la Pangée, ils s'aiment pas eux-mêmes.
Non, mais... Mais à part une ou deux visuels que je trouve assez sympas, comme par exemple l'ombre de cette espèce de T-Rex qui est projetée sur l'intérieur de la caverne à un moment donné, bon, il y a deux, trois idées un peu de petits malins comme ça qui sont pas trop mal. À part ça, voilà, effectivement, aucun intérêt de ce fameux twist, alors que c'était tellement génial de se dire que ce mec, en plus, arrive quelques heures avant la météorite qui va exploser les dinosaures et qui, du coup, lui-même doit échapper à cette météorite. C'était incroyable comme idée. Mais c'est tellement, tellement mal exploité, effectivement, parce que cette espèce de lieu où ils sont, on n'y croit pas, on ne comprend pas comment cette terre est peuplée, on ne comprend pas comment lui, en plus, il comprend, parce que je repense à la scène du geyser, là, la manière dont il se débarrasse de cette espèce de dinosaure.
Ah oui, il utilise le geyser pour le piéger et le cramer.
Comme,
c'est
si,
ça.
Comme s'il avait la préscience de comment fonctionnent les geysers. Enfin, voilà. Et la fin, enfin, juste, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, pour la dernière séquence, qui est d'ailleurs le générique, il me semble, on a cette espèce de time-lapse de comment la vie ensuite réapparaît sur la Terre.
Et c'est vrai.
Et en fait, on se dit, mais à ce moment-là, il tisse absolument aucun lien entre le passage d'Adam Driver, qui est quand même globalement un humain, enfin qui a tout d'intérieur, justement la vie qui apparaît, les hommes qui apparaissent plus tard sur Terre. Il ne dresse aucun lien entre ces deux-là. Mais c'est trop bête, pourquoi tu fais un personnage humain dans ces cas-là pour parler de l'apparition plus tard des humains sans qu'il y ait la moindre cause ou conséquence? Enfin, je trouve ça stupide en plus de tout ce que t'as déjà dit et que...
Ouais, bah tu sais, nous on aime bien jouer au président le midi.
Là, je m'attendais pas à cette transition, 65. Très bien, je suis curieux.
Non mais 65, c'est un peu tu joues au président et t'as 4-2 dans ta main. En fait, tu les joues jamais et du coup à la fin, il te reste juste 4-2, bah du coup tu deviens le trou du cul. Bah c'est exactement ça quoi. C'est-à-dire que le truc, il avait tous les atouts du monde, putain, mais un pitch de fou. Il y avait un budget mais énorme en plus, je sais plus. Bon alors tout le monde s'est un peu battu sur combien ça a vraiment coûté, ouais. Mais c'est typiquement le genre de projet qu'on aime, tu vois, c'est assez gros pour être presque un blockbuster, ouais. Mais et aussi plus gros pour qu'il y ait une simple série B, tu vois. Enfin, il y avait tout pour lui. Et dès le début, t'as un panoramique. Le mec débarque sur la Terre que tu sais infestée de dinosaures. Il y a un panoramique. Et enfin, ça leur coûterait même pas si cher d'incruster à ce moment-là, je sais pas, un petit ptérodactyle dans le fond, je sais pas, mec. Quelque chose. c'est la, ils te disent, c'est la Terre des dinosaures, mais c'est une Terre sans dinosaures.
Mais c'est pareil que toi, je voulais aimer ce film. J'ai entendu parler de projets, déjà Adam Driver, des dinosaures. Mais oui, donnez-moi. Et en voyant le film, et déjà oui, bah, j'ai très vite déchanté quand j'ai vu que, bah, pareil, en fait, ils étaient, on aurait dit, la forêt de Quimper avec trois pauvres fleurs. Je sais pas s'il y a une forêt à Quimper, la célèbre forêt de Quimper.
C'est pas très sympa envers Quimper, mais bon.
Mais bon, voilà, juste une vieille forêt que t'aurais chopée n'importe où. Ils t'ont mis genre trois fleurs à peu près exotiques, et voilà, ça c'est ton environnement. Et bah voilà, bah les dinosaures, bah t'as trois pauvres espèces qui se courent après. Enfin, franchement, c'est quoi ça? Et le côté, moi en plus, il y a le côté survival qui m'intéressait énormément parce que j'adore ce genre-là. Et
on aime les gens qui souffrent, on l'a dit.
Et j'étais tellement désarçonnée par ça parce que bah il y a pas tellement de survival là. Au bout d'un moment, il te montre son espèce de pistolet où on te montre qu'en fait il y a un certain nombre de charges et tout. Tu dis ouh, ça à un moment il va se retrouver dans la merde. Et bah non. Enfin, je sais pas, c'est plein de perches tendues comme ça et quand tu vas pour les saisir, hop, et bah non en fait non.
Ouais, et puis pour compléter ce que vous disiez là-dessus, enfin moi il y a ce truc, alors visiblement la prod du film aurait, enfin les réals seraient déçus de comment a été révélé dès les bandes annonces finalement que donc le 65 se réfère effectivement aux 65 millions d'années et que la Terre est la Terre, et dans le trailer ça t'était déjà révélé, et dans le film c'est trop bizarre parce qu'il l'assume qu'à moitié. Ça arrive au bout de 15 minutes au moment où le titre apparaît et où il te dit c'est la Terre il y a 65 millions d'années, donc toi tu le sais à ce moment-là. Et pour revenir sur ce que vous disiez, enfin, pour moi, le grand rendez-vous manqué, c'est effectivement la météorite. C'est, ça arrive, en fait, c'est un truc que t'attends, parce que toi, en tant que spectateur, tu peux te dire, mais attends, du coup, s'il est là, est-ce que c'est proche de l'extinction des dinosaures? Enfin, et quitte à faire le hasard, mais tease-le dès le départ, faisant un vrai élément de course contre la montre au fur et à mesure que le personnage a dès le début du film. Et au final, ça arrive au milieu. Il sort son espèce de truc là, de holographique pour piger un truc. Et donc toi, à ce moment-là, tu piges tout de suite que c'est la météorite. Mais lui, ça devient un enjeu pour lui que dans le climax. Et tu dis mais what ? Enfin, ça devrait tellement être le truc qui drive le récit de on a tant de temps pour arriver au vaisseau pour pouvoir repartir. Et c'est pas exploité. Et enfin, moi, c'est typiquement pour ce genre de conneries où tu dis mais effectivement t'as de l'or entre les mains et t'en fais rien du tout.
Ce film ressemble vraiment à un accident industriel. De toute façon, on dirait qu'il a été vraiment fait en dépit du bon sens. Il a été vendu n'importe comment, distribué n'importe comment, personne l'a vraiment assumé. Je pense qu'à un moment ou
l'autre quelque part, hein, je pense.
C'est ça, il a été vraiment, t'as l'impression que la manière dont il a été vendu, effectivement, je me souviens très bien quand on a fait le premier trailer sur écran large, On a regardé la bande-annonce, j'ai vu la bande-annonce, je dis « Oh putain, en fait, ce truc a l'air trop bien !» Mais ils avaient déjà vendu la mèche, on s'est dit « Putain, c'est un film de dinosaures !» Jusque-là, c'était un film avec Adam Driver de survie en territoire hostile. Il n'y avait aucun élément supplémentaire par les scénaristes sans un bruit, ce qui était déjà un argument. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est un bon cas d'école. Et à l'époque, on s'était dit que c'était un peu comme Life et Underwater, des films qui sont faits avec beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent pour un petit film de monstre, qui sont, alors perso, moi j'aime beaucoup Life et surtout Underwater, celui-là c'est vraiment la queue de comète de la merde à la fin, mais c'est un peu cette même, ce même espoir raté de « Ah, si on faisait des films avec des monstres, avec un peu d'argent, bah non, en fait, pour que ce soit ce résultat-là. » De toute évidence, on n'en aura pas plus. Alors passons à un autre monstre qui s'appelle... non, je vais pas faire cette blague. Allez, en huitième position...
Oh, tu... Vas-y, va au bout de ta pensée.
Allez, en huitième position, on va passer la main à Antoine, qui est le seul qui s'est dévoué pour voir ce film de merde. Huitième, Dogman.
Dogman de Luc Besson, ouais. En fait, c'est toujours compliqué de parler de ce truc-là. Et puis bon, on en parlait un peu en intro, donc je vais quand même un peu revenir là-dessus. Mais c'est vrai que 2023 était pour nous l'année de la jurisprudence à écran large, avec certains films qui, comme tu le disais Mathieu, attirent une telle communauté de haine qui pose une question assez terrible sur à quel point la critique de cinéma doit être politique, ce qui pour nous est une évidence en tant que bon gauchiste qui se respecte, mais qui ne l'est pas pour tout le monde, qui veulent vraiment décorréler la qualité cinématographique d'une œuvre et ce qu'elle représente ou son contexte de production. Bon, l'avantage, c'est qu'avec Vaincre ou Mourir comme avec Dogman, on est servi puisque les deux films sont absolument atroces. Et Dogman, particulièrement, ce qui est quand même assez particulier, c'est que Luc Besson, on tenait à en parler parce qu'on voyait bien que Luc Besson l'utilisait comme outil de réhabilitation médiatique après toutes les affaires judiciaires qu'il avait au cul. Et moi, c'était en particulier ce qui m'agaçait, puisque du coup, le film a été présenté à Venise, à la Mostra. À partir de là, il a fait tous les plateaux télé qu'à l'époque. Il a fait Paris Match aussi, qui a fait une grande couve pour dire voilà, l'homme qui a été bafoué, machin. Et puis on revient plus fort que jamais. Et tu te dis, alors en sachant que je rappelle encore une fois qu'il y a eu un non-lieu, hein, avec l'affaire notamment de cette actrice qu'il a accusée de viol. Donc, il n'y a pas d'innocence avérée. Hein, il n'y a juste eu pas de procès, en fait, du coup, à cause du non-lieu. Et maintenant, Besson revient voilà, plus fort que jamais avec ce film-là et qui pose la question très simple. Est-ce que vraiment c'est avec ce film-là qu'on a envie de défendre la liberté soi-disant d'expression et la présomption d'innocence? Parce que, mon Dieu, que c'est nul Dogman, mais c'est nul à un niveau.
Ça parle de quoi déjà
aberrant.
Rappelle-nous.
Ça parle d'un incel handicapé qui a une balle dans le dos, donc qui est tétraplégique, et donc qui vit en communauté avec des chiens, puisqu'il a longtemps vécu en tant que gamin maltraité par ses parents qui le jetaient dans la fosse aux chiens. Et du coup, il est accompagné par des chiens qui l'aident à faire des vols par effraction chez des gens très riches, parce que tu comprends la société, quoi. Et en plus de ça, il fait du drag show, voilà, parce que il y a quand même beaucoup,
je me disais bien que t'avais oublié un élément.
Oui, non, j'avais oublié, c'est quand même beaucoup d'éléments dans le scénario de merde.
C'est un peu le Camoulox, hein, quand même. C'est un peu comme le truc là qui avait été fait où tu voyais le générateur de synopsis.
Mais
de
c'est
Besson,
exactement
il
ça.
Il a renouvelé avec des trucs un peu dans l'air du temps, genre drag queen, et voilà.
C'est exactement ce que j'avais mis dans le texte.
Avec Christian Clavier, d'ailleurs.
Et pendant une seconde, je l'ai regardé sérieusement, je suis « Ah bon ?»
Moi, j'avais vraiment mis ça d'ailleurs dans le texte en disant « Mais ce que Mosinor disait, donc à l'époque, de fameux générateur aléatoire de scénario, c'est exactement ça. » En fait, c'est vraiment devenu ça, Luc Besson. Et donc, en plus, ce qui est terrible, c'est que tu te dis « le film est atroce. » Alors déjà, il faut quand même rappeler qu'il a la scène involontairement comique la plus géniale de cette année, où du coup, le personnage comprend qu'il est tellement en osmose avec ses chiens que quand il décide de faire un gâteau, donc dans son fauteuil roulant, dans son petit taudis où il se planque, il demande à ses chiens de lui ramener de la farine et du sucre, et les chiens le font.
C'est
juste
ça, je
par la parole,
qu'il y a un petit air de Disney depuis le début.
Mais c'est exactement ça.
C'est un peu de Dodin Bouffant. Hein.
Donc entre ça et la scène de drag show où il prend en lip sync la môme d'Edith Piaf, là tu te dis non je ne regrette rien, pardon. Là tu te dis voilà, il y a tout pour faire un bon gros nanar cosmique qui en plus de ça, comme souvent avec Luc Besson, plagie d'autres films, hein, parce que tant qu'à faire, donc là cette fois-ci c'est Joker qui passe à la moulinette avec une sorte de forme d'interrogatoire d'un personnage voilà qui est ostracisé du monde. Et c'est là que c'est terrible en fait, parce que tu peux essayer de mettre le film le plus possible en dehors d'une dimension politique et du rapport à Besson, mais évidemment qu'il parle de lui-même en fait. Il parle d'un personnage ostracisé de la société qui a été plus ou moins maltraité, la police ne faut pas lui faire confiance, et puis on revient plus fort que jamais. Tous les personnages féminins dans le film sont atrocement écrit et trahissent d'une manière ou d'une autre le personnage, soit en l'abandonnant comme sa mère au début du film, soit en lui faisant croire qu'il pourrait sortir avec comme la femme qui devient son inspiration plus tard en tant qu'actrice et qui pareil l'abandonne en fait en cours de route. Et donc voilà, tout ça amène à ce truc où tu te dis je ne peux pas traiter ce film autrement que d'un point de vue politique. Ça a forcément fait râler, et c'est pour ça que je précise que du coup ce qu'on a écrit sur le film, c'est pas une critique, c'est un dossier de fond pour expliquer qu'il n'y a pas de bonne solution à traiter un film comme ça, parce que soit tu boycottes le film mais c'est déjà une forme de positionnement, soit t'en parles en le dépolitisant, ce qui pour nous est une aberration, soit tu fais une critique à charge d'un point de vue politique et les gens se braquent souvent parce que du coup forcément tu lis le film à ce qu'il est aussi. Mais je précise bien que moi c'est ce qui me fait le plus halluciner quand je vois Dogman, c'est qu'au-delà du fait que ça soutient quelqu'un qui a pris quand même quasiment 500 salles hein, avec cette daube pour non seulement se réhabiliter médiatiquement et essayer de revenir en force alors que clairement il devrait arrêter de faire des films hein, Besson, au-delà des problèmes qu'il a derrière lui, ça prend de la place pour d'autres cinéastes en fait, et ça prend des financements aussi, parce que tu vois quand même le logo non seulement d'EuropaCorp mais aussi de TF1 Studio et de Canal Plus derrière, et tu te dis en fait ça devrait être pris par d'autres gens qui ont déjà des choses à raconter, des cinéastes peut-être plus jeunes à qui il faudrait faire confiance plutôt qu'à des vieux croutons qui n'ont plus grand chose à dire et qui devraient clairement arrêter de faire du cinéma.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Oui, je pense qu'on se souvient bien de comment ça a été compliqué pour nous de gérer le film. Alors déjà, qui a envie de le voir? Et puis après, comment on aborde le film? Comment on va gérer les commentaires? Comment on va répondre aux gens? En fait, dans l'article qui a été publié sur le site, où on disait en fait, il n'y a pas de bonne solution, peu importe ce qu'on fait, ça va être un problème. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens nous ont reproché absolument tout ce qui pouvait être reprochable sur ce film-là. Je sais pas si toi, Mathieu, tu te souviens de comment ça a été sur Facebook. Est-ce que ça a été le chaos? On a ouvert les portes de l'enfer avec cet article?
Bah, je les ai surtout fermés en fermant les commentaires. Parce que voilà, oui, alors pour dire, parce que du coup, on nous insulte souvent en MP en disant bolchevique qui fait en fait. Maintenant, j'ai pris depuis quelques mois, années même, je crois, j'ai pris l'habitude de fermer les commentaires à des sujets. Tu sais que ça va pas louper, donc je le fais quasiment systématiquement. Blanche-Neige, c'est la fête du slip, et Besson, c'est les deux sujets. C'est, d'habitude, je regarde comment ça se passe, et si ça part en steak, je ferme ces deux sujets là. Je sais que c'est, ouais, c'est foutu en fait. Du coup, on nous dit qu'on limite la liberté d'expression parce que c'est vraiment le terme. Passe-partout, mais en fait c'est juste une question de, enfin désolé hein, mais c'est vraiment une question d'effectif, c'est-à-dire que je modère parfois seul, parfois tu viens, enfin vous venez m'aider, mais on n'est pas assez, enfin on fait déjà plein de trucs, on n'est pas assez pour freiner des vagues de commentaires, ouais, qui se montent parfois à plusieurs centaines, voire mille, c'est déjà arrivé milliers, et sur le cas Besson, désolé hein, c'était, certains termes ne relèvent pas de la liberté d'expression, mais du sexisme, de racisme, enfin pas moins dans le cas Besson, mais bref, de choses qui sont juste pas légales, hein, donc nous on a le devoir de les effacer, et quand on n'a pas la possibilité temporelle de le faire, ça devient compliqué. Après je pense que le cas Dogman, il est quand même intéressant par ce truc de la réhabilitation, c'est assez différent du cas dont on ne doit pas prononcer le nom qu'on a eu en début d'année, où là vraiment on a pris un raid atomique, un raid organisé quoi, tu vois, pour le coup. Ouais, c'est vraiment
qui
ça.
Qui a valu aussi d'être piraté quand même, rappelons-le. Hein,
oui, le site
a été piraté pour retirer, effacer la critique.
Illégal, donc, voilà, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai... Ah oui, c'est assez différent parce que je pense que là, pour le coup, toute la presse française a un peu pris, a pas pu trop l'ignorer parce qu'il y avait, déjà, il a été largement traité. Et si je dis pas de bêtises, le chargé de com d'EuropaCorp, il envoyait un peu des mails et des SMS à tout le monde dès que tu disais le moindre truc qui pourrait pas les faire t'attaquer en justice. Enfin, il te menace. Enfin, il y a vraiment une croisade. Non, c'est un mauvais terme. Yeah. faut que j'arrête. Il y a vraiment une volonté de la part de Rupa Corp de réhabiliter leur boîte et surtout la personne qui est derrière, parce que c'est leur visage, tu vois.
Oui, c'était Mediapart qui avait sorti un article pour expliquer que plein de rédactions avaient été contactées et que parfois
au-delà
c'était
de ça, on a vu pas mal de gens de la presse parler entre eux et dire qu'ils avaient nous aussi on a reçu un petit mail sympathique
potentiellement.
Direct le mec te menace de poursuite judiciaire. Bref, en tout cas, Rupa Corp est extrêmement véhément envers la presse. C'est un geste classique hein, qu'on connaît d'attaquer la presse dès qu'ils aiment pas quelque chose. Comme quoi, c'est des, un truc un peu complotiste de les merdias.
Oui,
comme si on
moi,
était tous
bon,
la main dans la main. Alors que bon, on est dans la main avec personne.
Et puis, comme tu disais, il y a une responsabilité de notre côté de modération. En fait, on sait même pas.
Ça,
déjà, la liberté d'expression, ouvrir toutes les vannes, c'est pas la liberté d'expression si tu commences à tacler, à insulter tout le monde et à tenir des propos infâmes. Et surtout, nous, notre boulot, c'est aussi de faire en sorte que si pendant tout le week-end, t'as 800 commentaires avec personne pour les modérer parce que on bosse pas le week-end, en fait on est responsable de l'horreur qu'il y a et des horreurs que les gens disent, donc en fait c'est notre job de modérer.
Au-delà de la nécessité légale, je pense parler au nom de tout le monde en disant qu'on a envie que n'importe qui sur cette terre puisse venir discuter avec les gens dans les commentaires d'écran large, que ce soit sur Facebook ou sur le site, et qu'ils se retrouvent pas face à un torrent de haine et d'insultes quel que soit son genre ou tout ce que tu veux, il faut que. Parce que c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, si tu rentres dans une section commentaire où il y a que de la haine, t'as pas envie d'apporter ta pierre à l'édifice.
Exactement.
Du coup, il ne reste plus que les gens qui crachent de la haine. Et Facebook, c'est un peu devenu ça, on va pas se mentir, sur certains sujets. Ils sont en boucle sur les mêmes sujets. Voilà. Et je terminerai en disant que. Allez voir le film de Garonne, qui s'appelle aussi Dogman, qui est aussi avec des chiens et qui est excellent.
Vrai.
Oui, et puis pour clore le débat là-dessus, c'est quand même de remettre les choses au clair, c'est que s'il est dans ce flop, Dogman, c'est autant par la qualité, pour le coup, les gens veulent scinder autant, c'est autant pour la qualité intrinsèque du film, qui est vraiment pour moi l'un des pires trucs que j'ai vu cette année, avec l'autre film dont il ne faut pas citer le nom, parce que cinématographiquement c'est infâme, c'est mal joué, c'est pas écrit, c'est tout ce qu'on reproche à Besson depuis déjà 15 ans, et vraiment, mais à un stade ultime, tout en ayant tout ce qui est dans son sillage et qui est pour nous impossible à oublier. Et j'ai envie de dire, en tant que média cinéma, c'est même notre responsabilité de rappeler tout ce qu'il y a dans le sillage d'un film, de sa production, de son contexte de sortie, et que c'est toutes ces raisons-là qui fait qu'il est là, même si ça peut en déplaire à certains.
Allez, ça c'est fait. On passe en 7e position avec un autre film français qui pourrait d'ailleurs être le titre de 2023. Ça s'appelle Une année difficile. Donc, alors Judith, peux-tu nous rapporter comment s'est passé ce visionnage ?
Voilà, alors je crois que j'ai été la seule à le voir, donc je vais pouvoir m'amuser comme je veux. Je vais commencer par l'anecdote que je raconte à chaque fois que j'essaye de qualifier ce film, et en même temps, j'ai pas de meilleur moyen que de vous faire comprendre mon ressenti. En fait, je l'ai vu à une séance où il y avait un petit Q&A bizarrement avant le film avec, j'avoue, je ne sais pas si c'était Toledano ou Nakache, mais l'un des deux, et Pio Marmaille qui était là. Et en fait, donc le public a eu le droit de poser 2-3 questions, et il y a eu ce moment extrêmement gênant d'une nana qui a dit, en gros, comment est-ce que je peux passer un casting pour votre prochain film ? Voilà, en gros, engagez-moi, je veux être la star de... Enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais genre ce moment très très gênant où la meuf choisit de dire devant tout le public, genre engagez-moi, et elle a insisté pour leur filer son CV et tout, et c'était gênant. Moi, c'est le genre de situation, vraiment, j'avais envie d'être sous mon siège, quoi, c'était atroce. Et finalement, c'était vraiment le moment le moins gênant de toute la séance. C'est vous dire, parce que c'était vraiment, c'est l'un des films de 2023 dont je suis ressortie la plus énervée, peut-être le pire d'ailleurs dans ce style-là. J'avais envie de bouffer mon fauteuil tellement ce film m'a saoulée, mais alors de tous les aspects. Le truc, c'est que c'est vraiment un concentré de tous les sujets un peu tendu d'un point de vue social ces derniers temps, donc c'est-à-dire que on adresse la pauvreté grandissante, les violences policières, les agressions sexuelles et les questions écologiques. Donc tous ces sujets-là sont brassés, non pas pour faire de l'humour avec, mais purement pour s'en moquer. Parce qu'en plus, le film n'est pas très drôle, donc voilà. Parce que les défenseurs de ce film-là diront « Oui, mais il faut pouvoir rire de tout, gna gna gna, vous êtes chiant. » Le truc, c'est que... On peut...
Sans la rage dans la voix de Vigier.
Non, mais c'est-à-dire que j'en peux plus cet argument tellement basique. Genre, évidemment qu'on peut rire de tout, mais encore, faut-il savoir être drôle ? Encore, faut-il savoir comment en rire et en rire intelligemment ? Parce que là, c'est absolument pas le cas. En fait, le truc, c'est que tout est raconté d'un point de vue complètement déconnecté de toutes ces questions-là. Je pense pas que Toledano et Nakache aient énormément de problèmes dans leur vie, et ça se ressent. Ils posent, je trouve, à travers cette, ce soi-disant humour, un regard tellement méprisant et tellement déconnecté sur ces questions qui sont quand même extrêmement graves, qu'on en arrive à un film qui, je trouve, est vraiment mais insultant, en fait.
Ça parle de quoi ? C'est quoi le pitch ?
Oui, pardon. Alors, c'est l'histoire, du coup, de les personnages de Pierre Marmaille et Jonathan Cohen, qui sont dans une situation très précaire. Il y en a l'un qui est vraiment addict. Il est accro à quoi ? Non, oui, Jonathan Cohen, il essaye de se suicider au début du film parce qu'il s'en sort plus financièrement parlant, il perd sa maison, et Pio Marmaille lui-même, il dort dans un aéroport parce que, c'est pareil, il a plus de chez lui, il a plus à joindre les fins de mois, etc. À joindre les deux bouts, pardon.
On dirait des bras qui parlent.
Oui. Et en fait, c'est au cours d'un apéro organisé par donc une association d'activistes pour le climat, qui parodie d'ailleurs je ne sais plus quelle association, qui en fait, ils se trouvent, bah, ils viennent pour manger des chips gratos en fait et boire des bières. Et bah, petit à petit, comme ils veulent en fait pécho la nana, un peu la leaduse de l'organisation qui est donc jouée par Noémie Merlant, et bah, ils décident de faire semblant de s'engager. Parce qu'ils veulent la pécho. Donc on est sur ce niveau voilà, de... Parce que aussi, il faut savoir que toute notion d'engagement dans le film est constamment moquée et décrédibilisée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun engagement qui est franc. C'est-à-dire qu'eux, ils s'engagent soi-disant pour pécho. Il y a un autre gars de l'association qui s'engage aussi, mais c'est aussi plus ou moins pour pécho Noémie Merlant. Et Noémie Merlant, on nous la décrédibilise aussi parce qu'on comprend en fait que c'est plus ou moins une bourgeoise qui est née avec une petite cuillère en argent dans la bouche, et que du coup, si elle s'engage, bon, c'est un peu de la posture, c'est un peu de... Voilà. Donc aucune sincérité dans les questions écologiques et de climat d'aujourd'hui, et les personnages qui sont pauvres, en fait, le film passe sa vie à les faire culpabiliser d'être pauvres. Et en fait, la seule solution qu'on leur apporte et qui est serinée tout au long du film par le personnage de Mathieu Amalric, c'est en gros, il faut que les pauvres, s'ils veulent arrêter d'être pauvres, ils arrêtent de dépenser, quoi. Les mecs, ils peuvent rien se payer dans la vie, ils ont pas un toit sur la tête, etc. Et en gros, il faut leur dire, est-ce que vraiment tu veux faire ce petit... Tu veux te faire ce petit plaisir ? Est-ce que vraiment tu veux aller te faire des courses et tout ? Genre, vraiment, est-ce que t'en as besoin ? Enfin, je trouve ça terrible
de tenir... Est-ce que vraiment t'as besoin de manger des pâtes ?
Mais oui, mais je trouve ça dingue que Toledano et Nakache se permettent de tenir ce genre de discours dans ce film. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, le personnage de Pio Marmaille va essayer de trouver des combines et d'un petit peu rouler ses potes dans la farine pour essayer justement de mieux s'en sortir et de se faire un peu de blé. Et c'est pareil, mais des trucs vraiment pas graves. Et à la fin, en gros, il va être pointé du doigt par tout le monde et on va lui mettre la honte parce que justement, il a essayé de s'en sortir avec des combines. Mais c'est un mec qui n'a encore une fois pas de toit sur la tête. Et bah voilà, enfin, alors là je m'énerve d'un aspect politique, mais en même temps ça concerne profondément l'écriture et le point de vue du film, donc c'est important. Et au-delà de ça, je trouve qu'effectivement il n'y a aucune prise de parti intéressante d'un niveau esthétique, hein. On est vraiment sur la mise en scène et l'éclairage de comédie, tout est suréclairé, enfin bon, je trouve que c'est inintéressant au possible. Et à côté de ça, bah, Pio Marmaille et Jonathan Cohen, oui, ils sont un minimum efficaces, mais enfin ils font leur numéro habituel, voilà. Et juste un dernier truc au niveau des violences policières, parce qu'à un moment donné il y a une manifestation qui est donc arrêtée par la police, et au moment où Jonathan Cohen se fait mettre dans la voiture de police, il engueule le policier de manière outrancière en disant « Oh, dites donc, vous êtes pas loin de la violence policière et tout, là !» Mais en fait, il ne représente aucune violence policière, alors qu'on sait quand même, là, on sait plus que jamais que c'est un sujet extrêmement grave. Et en fait, encore une fois, le sujet n'est adressé qu'à travers cette moquerie. Il y a à aucun moment où nous on représente de la vraie violence policière pour montrer que c'est pas pour rien si c'est un sujet en ce moment. Et ça n'est que cette espèce de point de vue bourgeois et privilégié sur des questions hyper importantes. Ça m'a rendu furieuse, vraiment.
C'est dingue parce que tout ce que tu racontes, mais ça se sentait, mais dès la bande-annonce en fait. Genre vraiment, la bande-annonce est montée de telle façon que à chaque fois, t'as voilà, une réalité sociale qui est tournée en dérision, évidemment, toujours du côté des. Pas de ceux qui sont oppressés, mais de ceux qui oppressent. Et bon, c'est pour ça que le film, clairement, j'ai même pas eu envie de lui prêter une minute d'attention. Mais c'est vrai que pour l'avoir vu la bande-annonce passer plusieurs fois au cinéma, il y avait ce truc qui ressortait de. On va se foutre de la gueule de ceux qu'on devrait soutenir quand même. Et donc au final, le message un peu beau et joli que tu peux avoir à la fin, j'imagine qu'il est complètement torpillé par toute cette couche de second degré très caricaturale, là où, je dis pas qu'un film doit avoir un agenda politique, mais avoir quand même conscience des réalités que tu véhicules, en fait, surtout à l'heure actuelle, avec les réalités sociales qu'on traverse et l'importance que c'est censé avoir.
Bah, le seul message beau, c'est qu'il y en a un qui finit par pécho, hein, c'est tout.
Waouh. Non, mais en plus, pareil, j'avais aucune envie de voir le film, donc je suis passé à côté, mais ça m'attriste d'autant plus que tu le dises, que On a beaucoup évidemment retenu Toledano et Nakash pour Intouchable, qui était déjà un film hautement bourgeois hein, au vu de son contexte, mais on a tendance à oublier qu'entre ça et Le sens de la fête, qui est aussi un peu dans cette mouvance-là, ils ont quand même fait Samba, qui est souvent un film qu'on a jugé très maladroit et qui l'est hein, au demeurant, mais donc à parler d'immigration et de sujets là aussi sociaux assez forts, et en plus beaucoup moins sous l'angle de la comédie, et que je trouvais, malgré sa maladresse, pas inintéressant. Et donc là, c'est visiblement dommage qu'il soit, enfin, qu'il y ait un tel retour en arrière de leur part. Ouais. C'est triste.
Et pour le coup, moi, j'aimais vraiment beaucoup Le sens de la fête. Et je trouve que là, on retrouve absolument rien de cette sensibilité, ni même de cette qualité d'humour. On est à des années-lumière de ça.
Ok, très bien. Ben, le cinéma français va très bien. Passons à la sixième position. On retourne du côté américain. Cette fois, c'est moi qui vais parce que j'ai détesté ce film de merde. C'est L'Exorciste Dévotion. C'est pas moi qui ai écrit dessus, c'est pas moi qui ai fait la vidéo, je l'ai rattrapé après vous. Vous disiez que c'était pas très bien. Mathieu trouvait que c'était ça va. Judith et Antoine, c'était où? C'est pas très bien. Et malgré
non,
ça.
Non, moi j'ai dit que j'ai mis une sale note et sur le podcast, on s'est déjà bien énervé dessus.
Ah bah j'ai pas écouté votre podcast, hein, désolé, mais. Je savais même pas qu'on avait un podcast.
Quel podcast?
Si un jour on faudra un podcast, on va pas mentionner le fait qu'on fait un podcast. Ça...
Le fait est que ça ne m'a pas préparé au visionnage de ce film parce que j'ai vraiment trouvé que c'est un des pires trucs vu ces dernières années. Pour moi, c'est, je crois que je l'ai mis en flop 2 cette année, tellement j'ai trouvé ça nul. Et en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Je ne suis pas un grand fan des Halloween de David Gordon Green. Je trouve que c'est de pire en pire d'épisode en épisode. Et pourtant, le premier, je le trouve vraiment pas top. Mais dans L'Exorciste, j'ai vraiment la sensation que c'est du vide, du vide, de A à Z, qu'il ne se passe rien, et que tu attends toujours que quelque chose se passe, et quand ça se passe, les lumières bleues se passent, arrive l'exorcisme, et c'est fini, et je me suis dit, mais c'est quoi ce degré de foutage de gueule? C'est interminable, les gens font que de parler, tout le monde se prend extrêmement au sérieux, évidemment, t'as aucun personnage vraiment intéressant, et en même temps, tout le monde a plus ou moins une backstory qui est censée te les rendre un minimum attachants, et j'ai trouvé que évidemment, le point d'orgue, c'est le retour de Hélène Burstyn. La manière dont... Alors, je sais que l'actrice, cette grande actrice, a dit qu'elle avait signé parce qu'on lui a dit... en gros, elle s'en foutait de revenir et on lui a dit « Non, mais si tu reviens, demande ce que tu veux. » Elle n'a pas demandé que de la thune. Elle a dit « Je veux que vous créez une sorte de fonds de financement pour des jeunes acteurs. »
Pour des jeunes acteurs.
Des jeunes acteurs. Donc, elle a signé pour ça. Et mais tu vois, contrairement à par exemple Halloween, on peut comparer les deux, puisque même réalisateur, même tentative de se raccrocher au premier épisode, même studio et tout ça, donc vraiment la même stratégie pseudo-nostalgique, fanservice. Mais au moins, Jamie Lee Curtis avait un rôle. Le truc qui marchait dans la trilogie Halloween, je trouve, c'est de remettre au centre Laurie Strode, de lui donner vraiment une continuation après l'avoir tué et malmené dans quelques épisodes auparavant. Au moins, il tenait la corde de Laurie Strode avec sa famille. Du coup, il y avait un arc émotionnel qui était au moins... au centre de l'équation. Là, il ramène Hélène Burstyn pour faire une apparition de guest de luxe. Est-ce que je peux spoiler? Est-ce que tout le monde s'en fout? Est-ce que vous voulez pas?
Oui, tu peux spoiler.
Je m'en fous total.
Parce que vraiment, elle revient et... c'est fantastique parce que le grand moment où elle est confrontée à la gosse qui est possédée, du coup, la scène est nulle en termes de mise en scène. Il se passe rien de spécial, c'est vraiment la porte se ferme, elle approche autour, la caméra tourne, l'autre elle fait comme ça, et puis elle lui fout les doigts dans les yeux, et elle a les yeux crevés, elle finit à l'hôpital.
Crucifix quand même.
Crucifix
en
ah
métal.
Ah oui, pardon, quand même. C'est un crucifix, pas des doigts. On veut
dire. T'es teasé bien avant le début de la séquence, donc tu devines ce qui va se passer de toute façon.
Puis du coup, après, elle est à l'hôpital avec un bandage sur les yeux, et le seul moment où elle a un autre sens, c'est encore pire, puisque du coup, Regan revient à la fin en apparition en guest.
Ronald Regan?
Alex,
ce serait presque mieux, tu sais quoi.
Alex sort de cette réunion et voilà, c'est l'arc du retour de ce personnage là c'est de passer pour trois scènes, des scènes écrites avec le cul, puisque vraiment quand elle échange avec le héros, c'est interminable et c'est super explicatif et vraiment inintéressant au possible. Mais au-delà de ça, je trouve que au-delà de la nostalgie du fanservice pourri, c'est que vraiment en tant que pur film de frisson, d'angoisse ou d'exorcisme, c'est plat quoi, c'est d'une fadeur hallucinante. Et je trouve ça hallucinant qu'avec de la thune et ce savoir-faire technique des gens qui sont impliqués, ce soit aussi peu intéressant. J'ai l'impression qu'à côté, les Conjuring ou Annabelle 3, c'est génial, tu vois, pour te dire à quel point l'exorcisme dévotion, c'est nul.
Ouais, moi, de toute façon, bah, tu vois, malgré... moi, il est que 5e ou 6e de mon flop cette année, mais c'est dire à quel point j'ai vu des films pires encore, mais... moi, pour le coup, ça m'a fait un peu une année difficile de Judith, c'est qu'il y a peu de films où je suis sorti aussi énervé, parce que j'adore tellement L'Exorciste de Friedkin et j'adore tellement les suites aussi derrière que j'attendais rien du film, mais j'avais un minimum de curiosité quand même. Et en fait, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que non seulement il essaye juste péniblement de reciter ses classiques en te faisant une scène à Haïti qui est censée se référer à celle en Irak au début de l'Exorciste, sauf que dans la scène en Irak de l'Exorciste, elle a du sens parce que justement, elle te raccorde pas au reste du film, elle a quelque chose de tellement bizarre, de tellement pas commun parce que tu sais pas où elle s'imbrique dans le reste du film et que ça te montre à quel point la menace s'étend justement, même sur des territoires totalement opposés, là ça sert à poser le trauma inaugural des personnages. Donc tu dis, bah, ok,
en
d'accord.
Plus, c'est même pas indispensable au récit.
Mais c'est pas
indispensable.
Je pensais plutôt
me dire, mais j'ai loupé quelque chose parce que ça ne sert à rien. Bah oui. Non, ça ne sert à rien.
Si, ça sert à te dire que clairement, l'avortement, c'est pas bien. Ah, donc, ah bah d'accord, ok.
C'est le petit point bonus à la fin pour aider la survie.
Et à ce moment-là, tu te dis, c'est chaud quand même d'en arriver à cette. Enfin, et je pense, tu vois, je suis pas sûr que ce soit quelque chose que Gordon Green voulait mettre, mais c'est clairement. Même les Américains ont perçu le film comme ça, comme une sorte de film quasi pro-life, ce qui pour moi relève d'une énorme maladresse du film. C'est chaud, quoi.
Et du coup, Ronald Reagan est vraiment là.
Mon Dieu. Mais tout ça pour dire que, enfin, pour moi, il y a ce truc où les suites de L'Exorciste avaient au moins le mérite de tenter des trucs différents à chaque fois, quitte à se planter parfois. Là, à essayer péniblement de refaire le premier en te recalant Ellen Burstyn, alors que tout ce qui fait que ça marche dans L'Exorciste premier du nom, c'est que tu suis la descente aux enfers de Reagan et tu vois son corps se transformer au fur et à mesure. Et là, du coup, en allant chercher Ellen Burstyn, comme dans tout Legacy Sequel qui se respecte, avec la musique de l'exorciste qui, moi, m'a fait pouffer de rire dans la salle à ce moment-là, tu te retrouves à ce qu'ils abandonnent les deux filles possédées, alors qu'en plus, c'est aussi l'autre twist du film, c'est que cette fois, il y en a deux, pour aller chercher les autres personnages, pour revenir et ensuite te faire la scène d'exorciste laborieuse par la suite. Et enfin, vraiment, j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'il prend une décision, c'est la pire possible. C'est le contresens complet de ce qu'il fallait faire par rapport à Friedkin, d'essayer de trouver le pas de côté. Alors qu'en plus, et je pense que là où je rejoins Mathieu, c'est que ce qui a fait que Mathieu, notamment, est ressorti peut-être un peu plus positif, je me permets de parler en ton nom, c'est que le tout début, notamment à l'hosto, quand il retrouve les gamines, il y a un vague truc qui se passe. C'est très léger, hein. Mais moi, c'est le moment où je me suis dit, bon, il tente quelque chose. C'est pas aussi fort, évidemment, que chez Friedkin, mais il tente un truc. Et en fait, c'est tellement tué dans l'œuf après que.
Tu sais qu'un des problèmes du film, je trouve que c'est l'accumulation d'abord deux gamines qui sont possédées. T'as du coup deux couples, enfin, pas deux couples de parents, parce qu'il y en a un qui est seul, mais t'as deux entités familles. Puis après, t'as tout un cercle à la fin quand ils font l'exorcisme. Tu te dis, mais qui êtes-vous? Mais cassez-vous, quoi. Déjà, il y a personne qui a un petit peu de caractérisation, mais casse-toi, quoi. En
et
fait,
le rassemblement, tout le, monde est... le rassemblement Avengers des différents mouvements du christianisme, là, tu vois, à pareil, c'est monumental de conneries. C'est ouf.
Ouais, alors moi je suis d'accord avec les défauts que vous avez soulevés, je suis aussi d'accord avec les qualités, d'ailleurs je pense que Mathieu en parlera mieux que moi, enfin les quelques qualités du coup, mais par contre là où moi je l'ai vraiment mis dans mon flop, t'en parlais Antoine, c'est vraiment pour l'aspect réac, parce que en ce moment je trouve qu'il est vraiment un petit peu fer de lance de cette espèce de mouvement des films catoporn qui balance des idées mais vraiment... tradit chez tradit et donc notamment un peu pro-life, et ça je trouve ça dingue de faire ça à notre époque, parce que il s'agit pas évidemment d'interdire, absolument pas d'interdire de parler de l'avortement comme étant quelque chose de traumatisant pour certaines personnes ou quelque chose de grave pour certaines personnes, etc. Bien sûr, pourquoi pas, mais par contre c'est le faire avec ce point de vue et ce discours ultra culpabilisateur. Alors que c'est quand même, il y a quelques mois, les États-Unis ont quand même interdit sur une très large partie du territoire l'avortement, avec toutes les dérives judiciaires que ça a entraîné depuis, qui sont absolument atroces. Je trouve ça gravissime. Et le film le fait avec mais des sabots d'une lourdeur. Mais c'est, enfin, j'ai trouvé ça très pénible à voir. Et donc voilà, ce début qui commençait pas si mal en termes de spatialisation de la maison au départ, la mise en place de quelques mystères. Voilà, c'était pas inintéressant. Et finalement, c'est un peu comme l'exorciste du Vatican. Quand ça se vautre vraiment dans les discours réac les plus basiques et les plus stupides, et j'ai trouvé ça très énervant aussi.
J'allais en parler plus tard de l'exorciste du Vatican.
Ah,
tu
pardon.
Tu m'as sous le pied. Ouais, non, mais je trouve que d'ailleurs ça se limite pas au catoporn, le côté un peu résurgence réac du cinéma d'horreur américain, parce qu'il y a une petite vague de redneck movies un peu réac aussi, avec le remake de Massacre à la tronçonneuse, et, enfin le reboot de Massacre à la tronçonneuse, et celui des Tours Mortels aussi, qui étaient tous les deux. C'était quasiment du McCarthyisme, hein, c'est un délire quand même. Oui, alors vous me faites passer pour le gars qui a adoré. Hein, on se calme, hein, je pense juste que ça vaut pas la sixième place du flop, donc je me fais un peu l'avocat du diable. Je trouve que la première partie est, en fait, au début je t'avoue que j'étais en mode pourquoi pas. Je trouve que la première partie, certes c'est pas l'Irak, mais ils arrivent à retrouver une mise en scène un peu 70s, tu vois, en plus même les trucs qu'on redoutait, comme la photo qui avait l'air un peu dégueu dans la bande-annonce, finalement ça fonctionne pas si mal, parce qu'ils captent ce grain un peu un peu 70s, tu vois, la moment où elles partent dans la forêt, elles reviennent, ils arrivent à cultiver une sorte de mystère auquel je m'attendais pas de la part de Gordon Green. Alors moi j'aime plutôt bien ces Halloween, mais bon, on va pas dire que c'est des sommets de subtilité. Et en fait, à partir du moment où où arrive Ellen Burstyn et moi aussi j'ai rigolé patatras en fait, ça se pète
la
gueule.
C'est ça la musique de l'exorciste.
Oui, je me suis dit pareil. Et je me suis demandé si je faisais une blague dessus, mais bon.
Je suis pas sûr que tu as vu dans l'exorciste.
C'est ça, non ?
C'est pas la musique de Rayman.
Ok, bon, je chanterai plus. Non, mais oui, voilà. Mais je trouve quand même que, au moins esthétiquement et sur certains aspects du début, il y a une volonté, quoi. En fait, la démarche derrière est tellement cynique que ça finit forcément par rattraper le film. Mmh. Et ce, dès le premier film de ce qui est censé être une trilogie, autant dire que ça donne pas envie pour la suite.
Donc, clairement. Bon, ça fait déjà quasiment une heure qu'on parle, hein, donc je pense qu'on va arrêter là parce qu'on n'a pas que ça à foutre, en fait. Donc, cette réunion sera aussi coupée en deux. On est à la moitié du flop, comme c'est un joli hasard. C'est un peu le moment idéal pour arrêter. Alors, je sais que vous faites rien la semaine prochaine. Donc, à la même heure, on se retrouve ici pour la suite et la fin de la réunion. On discutera des 5 pires films de 2023, donc les 5 premières places. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce que c'est des films qui pourraient être dedans ? Des pires films de 2023 qui n'ont pas encore été cités.
Expendables 4.
Oui, on s'y attendait.
Mario.
Ah ouais, d'accord.
Là, désolé, j'ai détesté Mario, voilà.
Mérité Mario de fou.
Je pense que Déborah va mettre Killers of the Flower Moon.
Est-ce que quelqu'un va mettre The Killer de Fincher ?
Non, parce que sinon j'appelle le Killer de Fincher, pas de souci.
Est-ce qu'on peut supposer peut-être la nationalité du film qui pourrait très bien être français à nous ?
Franchement, je pense qu'il y a... Enfin, nous aussi, évidemment, mais il y a quand même un suspense, je trouve, entre un film très américain et un film très français qui incarne tous les deux un peu une limite de l'industrie. Enfin, bref.
Et dans le rayon film d'horreur, parce qu'on parlait de L'Exorciste, je sais que Antoine, t'as détesté Five Nights at Freddy's. Vraiment beaucoup plus que moi.
Bah oui, parce que je l'ai rattrapé avec un pote pourtant très fan de l'univers et on s'est non seulement fait chier, et pourtant moi je suis vraiment une grosse flippette, hein, donc n'importe quel film d'horreur ça a un peu de l'effet sur moi, et non seulement pas un jumpscare qui a marché sur moi, mais surtout qu'est-ce que tu t'emmerdes en fait, enfin c'est, et je suis vraiment pas fan de l'univers, mais même mon pote qui était vraiment un fan hardcore de la mythologie m'a dit mais c'est n'importe quoi, ils font nawak et puis ça respecte rien et ça n'a pas de sens et c'est pas intéressant à suivre, donc même les trahisons qu'ils font sont pas pertinente parce que bah, c'est juste chiant à suivre. Donc gros gâchis que ce film-là.
Et Insidious 5, je crois que vous n'êtes pas d'accord, Judith.
Ah,
et
moi, j'ai
Antoine.
Kiffé.
Ouais, ouais. Judith le défend. Pardon, Antoine, Mathieu, toi tu détestes le film.
Quoi ?
Ouais, non. Pourtant, je partais vraiment pas gagnante parce que j'avais détesté le 4. J'adore les trois premiers Insidious, mais j'avais vraiment détesté le 4. Et bah écoute, très bonne surprise pour moi. Je dis pas qu'il est génial, mais j'ai vraiment bien aimé.
Ok.
Personne ne comprend autour de la table.
Non, mais je sais pas, la manière de faire passer l'horreur par le dessin et vraiment la physicalité du dessin, de la peinture et tout, j'ai vraiment aimé ça. Ouais.
Ok, ouais, j'ai trouvé avec ça. Des dessins, putain, ça a l'air original. Hein.
Ouais. En fait, dès qu'il y a une petite référence à Dorian Gray ou un truc comme ça, elle adore.
C'est ouais, bah ça. Voilà, ouais, c'est ça.
Et The Meg 2, personne n'a cité The Meg 2.
Ah là, d'accord. Non, je l'ai pas vu en plus, j'ai vu que The Meg 1, ça m'a suffi.
Bah, il y avait déjà Expendables 4 avec Jason Statham. Du coup, je me suis dit qu'il fallait choisir. Mais non, c'est vrai qu'il aurait eu sa place. Mais j'aurais
peut-être. C'est vrai que c'est pas son année. Hein.
Ouais, non, clairement pas. Mais j'aurais peut-être été seule à le mettre dans le flop. Et du coup, ben, il aurait
pas
été représenté.
Autant que ça, moi. Voilà. J'ai plus détesté Blue Beetle, hein, pour en reparler.
Ouais, c'est un film qui a fait un peu plouf, je trouve. Et du coup.
C'est la
Janouille.
Allez, non, moi j'aurais bien mis Fast X quand même, hein, qui était quand même une sacrée de basse.
On est plusieurs, peut-être qu'il y sera.
Bien sûr, toujours.
Oui, c'est vrai.
C'est pour ça que je rebondis sur Fast X.
Je suis mais sûr qu'il joue dans l'exorciste du Vatican. Il doit être genre le démon. Tu sais.
C'est dommage qu'on n'ait pas parlé non plus de. D'ailleurs, enfin, à la fin de Fast X, il y a quand même un immense caméo de Gal Gadot.
Moi, pas son
c'est
année non plus.
Ça que j'attends surtout avec impatience de Fast 11, c'est de savoir ce qu'elle va faire de ce sous-marin. Voilà. Savoir si Vin Diesel va survivre à cette explosion sur ce barrage qui est coupé en pleine action. Parce qu'il faut bien faire un cliffhanger de fin. Quelle honte ce film, mais vraiment jusqu'au bout quoi.
Gal Gadot qui a jamais été aussi bonne actrice depuis qu'elle se contente à faire des caméos, je pense.
Elle se contente même de faire des caméos sans sa tête. Incroyable quand même dans Shazam. Dans Shazam 2, ça, moi j'ai trouvé ça fabuleux.
Bon, quand je vous écoute, je me dis que vraiment il faudrait qu'on fasse ce foutu podcast. Je sais qu'on en parle semaine après semaine, mais je pense que le monde n'attend que ça. Et le jour où on le fera, j'espère que vraiment ça va marcher, que les gens ils vont nous aimer, ils vont aimer nous écouter, nous mettre plein d'étoiles, nous partager, faire de nous les rois et les reines de l'univers. Je pense qu'on peut y arriver parce qu'après tout, si Luc Besson peut encore faire des films, on peut rêver à tout et n'importe quoi.
Oui.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.